Donc bonsoir messieurs, voilà Bezrat Hachem, ce soir c'est les 11 mois de ma maman qui est décédée donc il y a 11 mois. Et donc on a l'habitude de faire pour le 11e mois, de s'arrêter, de dire le Kaddish pendant une semaine. D'accord ? Et le 11e mois, on fait une petite Seouda avec un peu d'Ivrei Torah. Donc c'est les Ivrei Torah et après Bezrat Hachem, il y aura la petite Seouda. En tout cas, le sujet aujourd'hui, c'est un sujet qui va nous tenir beaucoup à cœur. Pas pour faire un jeu de mots, comme vous allez le voir, mais c'est, je pense, quelque chose, c'est un des fondements du judaïsme, un des fondements de notre venue sur Terre, d'accord ? C'est de purifier son cœur, de réussir sa vie, de réussir dans son Avodat Hashem. Alors, on commence comme ça. La Mishnah dans Pirkei Avot, d'accord ? Une Mishnah très intéressante. Où là-bas, la Mishnah, elle va nous citer les élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai, si vous le connaissez, c'était le père de la sagesse, comme le Chazal nous le raconte. Et il avait plusieurs élèves. C'était lui, le Rav à la destruction du deuxième Beth Amikdash. D'accord ? Celui qui va aller discuter avec Vespasien, c'était Rabbi Yochanan ben Zakkai. En tout cas, lui, là-bas, il a plusieurs élèves. Et la Mishnah nous raconte qu'il a demandé à ses élèves d'aller scruter le monde et de savoir quel est le trait de caractère auquel on doit s'accrocher, on doit se coller. D'accord ? C'est une Mishnah qui est très connue. Donc je vais vous la lire en hébreu. Amar lahem sur ou ezer derer yisharash dabek ba'adam. Sortez, allez réfléchir, sortez et réfléchissez le derer yishara, le chemin droit qu'un homme il doit se coller à lui. Alors tous ces élèves, ils sont partis, ils ont commencé à réfléchir et ils sont chacun venus avec une conclusion. Rabbi Lazar Omer, Aïn Tova, avoir un bon œil. Rabbi Yoshua Omer, Chaver Tov, être un bon ami ou avoir un bon ami. Rabbi Yose Omer, Shachen Tov, un bon voisin. Rabbi Shimon Omer, Aroet Anolad, celui qui voit ce qui va naître, d'accord ? Rabbi Lazar Omer, Lev Tov. Rabbi Lazar Benarach lui disait que c'était un cœur bon, un Lev Tov. Amar Lahem, qu'est-ce qu'il aurait répondu à Rabbi Yochanan ben Zakkai ? Quelle était la conclusion ? Roé Ani el divrei Rabbi Lazar ben Arar mi divrechem. Je vois dans les paroles de Elazar ben Arar, rappelez-vous celui qui a dit Lev Tov, ce que vous avez dit, parce que tout ce que vous avez dit en réalité, c'est inclus dans le Lev Tov. D'accord ? Alors on va les reprendre un par un rapidement. C'est pas vraiment ça le sujet. Aïn Tova, c'est quoi avoir un bon œil ? Avoir un bon œil de voir les choses de façon positive, d'accord, d'être quelqu'un qui voit les choses agréables, de ne pas être jaloux des autres, d'accord, que l'autre profite. Alors, ça me fait plaisir. Vous savez, on raconte sur la rabbinine Steinman, oui, qu'elle aimait les belles choses. Ta marche, elle aimait les belles choses. Mais chez eux, quand chez vous avez la maison, elle n'était pas très jolie, mais elle aimait les belles choses. Est-ce qu'elle disait ? Elle dit, moi, j'aime les belles choses, mais ça ne me dérange pas qu'ils soient chez les autres. Ça, je sais apprécier un beau chandelier, un beau tableau, quelque chose de beau. Mais s'il est sur le mur de ma voisine, je suis très content pour elle, ça me contente, d'accord ? Elle avait un Aïn Tova, elle n'avait pas de jalousie. Donc, quelqu'un qui a un Lev Tov, un bon cœur, on peut comprendre qu'il ne soit pas jaloux, qu'il ait une bonne vision sur les autres. Chaver Tov aussi, d'accord ? Être un bon ami ou être capable de se faire des bons amis, aussi, ça témoigne d'un bon cœur. Ça, on comprend. Shachen Tov aussi, être un bon voisin ou un deuxième pirouge, je ne me rappelle plus. Ça aussi, ça dépend des bons traits de caractère de la personne. Donc on comprend aussi que cette chose-là, elle appartient à un Lev Tov. Maintenant, ce qu'on ne comprend pas, c'est les paroles de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Omer, a roé et a nolad. Comment le fait d'être capable de voir ce qui va naître, comprenez, de voir ce qui va naître, voir les conséquences, tu fais un acte, et tu es capable de réfléchir et de comprendre qu'est-ce qui va sortir de cet acte. Quel rapport, messieurs, avec Lev Tov ? Comment, dans un Lev Tov, il y a là le Roé Tanolad ? Alors ça, cette question-là, elle n'est pas de moi, elle est du Rav Nemensal. Et lui, il rajoute dans la question, qu'est-ce qu'il rajoute dans la question ? Un truc incroyable. Il dit que, vous savez, il y a la Gemara nous raconte, dans Maseret Tamid, que Alexander Mogdon, comment il s'appelle Alexander Mogdon ? Alexandre le Grand, est parti demander conseil aux sages du Negev. Il a posé plein de questions. Et parmi les questions qu'il a posées, il a demandé Ezehu Chacham, qui est l'homme sage. Donc la question qu'il pose, C'était par rapport à la chorma, la sagesse, à l'ordinateur qui est dans la tête apparemment. Qu'est-ce qu'ils vont répondre les sages du Negev? Ezehu Chacham, écoutez bien, vous êtes prêts? Aroé est un olad, celui qui est capable d'anticiper, de voir ce qui va naître. Donc de là, on comprend que quoi? Que Roé Tanolad, c'est un trait de caractère qui appartient à quoi? Qui appartient à la sagesse, pas au cœur. C'est quoi le cœur? Le cœur, c'est la volonté, c'est la bonté, le cœur, la bonté surtout. D'accord? C'est pas la sagesse, apparemment. Donc, comment on peut comprendre cette flagrante contradiction entre les sources? Donc, est-ce qu'il y a contradiction ou au contraire, et si Chazal veulent nous dévoiler quelque chose? Alors, en réalité, cette idée-là, elle est aussi rapportée, où ça, dans Shlomo HaMelech, il nous ramène dans Michelet. Il ramène un verset, ici, il nous ramène le verset, vous écoutez. « La mazemechir bial ksil iknot chorma velev aïn » Qu'est-ce que dit un ksil? C'est quoi un ksil? Quoi un ksil? C'est pour vous réveiller un petit peu. Un sot, un idiot, un sot. Et donc, imaginez un ksil qui aurait dans les mains le mechir. Il avait tout l'argent possible pour acquérir la sagesse. Mechir beyad ksil liknot rochma. L'argent, le mechir, le prix qu'il faudrait dans les mains du sceau pour acquérir la sagesse. Alors, nous le dit le verset ici dans Michelet, il dit, il ne pourrait pas l'acquérir si quoi? Lev haïn, s'il n'a pas de cœur. Un homme qui n'a pas de cœur ne peut pas acquérir de sagesse. Donc là, on voit clairement que oui, la sagesse, l'intelligence apparemment, qu'on va traduire comme ça, et le cœur, la volonté, avoir un bon cœur, ce sont deux choses qui sont apparemment complètement liées. Que si tu n'as pas celle-là, tu ne peux pas acquérir celle-là. Maintenant, on va dire, attends, je ne comprends pas. Celui qui n'a pas de cœur, c'est quoi qui n'a pas de cœur? On va dire qu'un homme qui est mauvais, un homme qui a une mauvaise volonté, alors il n'a pas de sechel. Ça veut dire que quoi? Qu'un professeur à l'université qui est mauvais, qui est jaloux, orgueilleux, etc. Alors il ne sait pas compter. Il va vous dire que 2 et 2 égale 5. Et non, ce n'est pas parce qu'il est comme ça que son cerveau ne va pas bien marcher. Et on voit au contraire qu'il y a des gens qui sont très très mauvais, mais leur cerveau, il marche très bien. D'accord? Ils sont capables de comprendre des choses très profondes. On voit aussi sur chez les philosophes. Les philosophes ont atteint des niveaux de sagesse, d'intelligence extrêmes. Et pourtant, plein étaient des gens extrêmement dépravés. Donc comment ça marche? Nous dit ici le Rav, il dit que cette chose-là, elle ne marche, elle n'est vraie que, ce rapport entre le cœur et la sagesse n'est vrai que dans l'Avodat Hashem et dans, on ne va pas dire la philosophie juive, mais que dans l'Avodat Hashem. Ça veut dire que si tu veux grandir dans le service divin, tu veux t'élever spirituellement, il faut forcément, il y a un lien, une corrélation, qu'on va expliquer, entre le cœur et la sagesse. D'accord? Maintenant, il y a plusieurs exemples où on voit des gens qui étaient pleins de sagesse, et pourtant, ils vont flancher. Pourquoi? Parce qu'ils ont un problème dans le cœur. Le premier exemple, c'est notre paracha, c'est qui? Un grand personnage qui s'appelait, comment il s'appelait? Pharaon. D'accord? Pharaon, c'était un homme d'une très grande sagesse. D'accord? C'était pas un idiot. D'accord? C'est un homme qui était intelligent. C'était un grand sorcier. S'il dirigeait un pays, forcément, il avait dû apprendre à l'université des rois là-bas en Égypte. Il avait dû certainement recevoir beaucoup de professeurs. Donc, ça ne devait pas être des derniers des idiots. Et on voit plus que ça, que lorsqu'il a dit « Venez, on s'ingénifie contre le peuple juif. Venez, on s'ingénifie, on fait quelque chose pour justement parer au peuple juif, empêcher le peuple juif de se développer et qu'on puisse le gouverner. » On voit qu'il a parfaitement réussi. Donc, on voit que l'homme était extrêmement intelligent, extrêmement sage. Il avait réussi à prendre ces juifs-là qui étaient au top en Égypte, les gens les plus importants de l'Égypte, d'accord, et il a réussi à les rendre des esclaves. Et donc ça, forcément, il faut être capable d'avoir une sagesse, une certaine sagesse. Maintenant, vous allez me dire, bon, lui, il s'en fichait de l'Avodat Hashem. C'est vrai qu'il s'en fichait de l'Avodat Hashem, mais malgré tout, du fait qu'il est mentionné dans la Torah, forcément, il a un lien avec l'Avodat Hashem, d'accord. Donc c'est pour ça qu'on peut largement apprendre de lui, bien que ce n'était pas un Oved Hashem. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Pharaon, on va lui dire qu'il a à la place de son cœur, il avait un kaved. Kaved lef paro. Alors kaved lef paro, on peut traduire par il était lourd le cœur de Pharaon. Mais on peut aussi dire que kaved, c'est quoi kaved? En hébreu, c'est le
respect.
Non, c'est kavod, le respect. C'est intéressant ce que tu dis. Mais Kaved, c'est le foie. À la place du cœur, il avait un foie. D'accord, le foie, c'est une chose intéressante. Le foie, on mange le foie, ouais. Vous savez que toutes les viandes, si on les cachérise, on les met un petit peu dans le sel, on peut les manger. La seule chose qu'on ne peut pas cachériser, c'est quoi? C'est le foie. Le foie, il faut carrément brûler pour pouvoir le manger. Pourquoi est-ce qu'il est plein de sang? Le sang, ça représente le mal, d'accord? Et donc, son cœur, lui, c'était un morceau de caved, il était plein de sang. Plein de sang spirituel, d'accord? Et donc, cet homme-là, il avait donc un cœur qui était complètement influencé pas par un cœur normal, par cette haine-là. Et où est-ce qu'on voit cette expression de haine? Lorsque Moshe Rabbeinu va venir lui parler, il va lui motiver à laisser partir les Bnei Israël, laisse partir mon peuple. Et il va commencer à faire des miracles et des choses et des trucs, une derrière les autres, les unes derrière les autres. Et on voit qu'à chaque fois, Pharaon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va endurcir son cœur. Alors, il y a plusieurs explications. On voit que Akash Bokhou lui-même va endurcir son cœur. Mais on voit au niveau du pshat que les commentateurs essaient d'expliquer quelle explication logique Pharaon a essayé de trouver pour ne pas croire ici qu'il y avait une expression divine, mais que c'était Moshe Rabbeinu qui s'est amusé avec son bâton à faire des trucs de sorcellerie. Il y a plein d'explications, ce n'est pas notre propos, mais on voit que chaque plaie, il était capable d'expliquer. Et la question qu'on pose, il dit, un homme normal, lorsqu'il se prend dans la tête une maca, et une deuxième maca, et une troisième, et une quatrième, à la fin, il s'arrête, il dit, attends, où je vais là-bas? Ils lui ont dit, tous ses conseillers, arrête-toi, l'Égypte, elle va être perdue s'il continue. Et non, il continue. Donc, où est-ce qu'elle était la sagesse de Pharaon? Toi, t'es un homme intelligent, qu'est-ce que tu continues maintenant? Arrête-toi, arrête les dégâts. Alors Chazal nous explique ici, il dit non, il avait dans son cœur, il avait un kaved, c'est que son cœur, il était complètement pourri. Et du fait que son cœur était complètement pourri, il était complètement aveuglé. Sa sagesse n'était plus capable de réfléchir. Il y avait une seule volonté, c'est cette volonté-là qu'il voulait absolument accomplir. Et c'est quoi cette volonté? Cette volonté de haine du Ram Israël, cette volonté de se venger du Ram Israël, etc., etc. Comme Chazal nous enseigne, que Pharaon, c'est lui le Yetzerara, ça veut dire que tout ce que le Yetzerara nous souhaite, Pharaon, il nous souhaitait. Et donc, il avait bien être beau sage, sa sagesse, elle n'avait aucune emprise lorsque son cœur pourri l'avait envahi. Donc ça, c'est le premier exemple qu'on voit, c'est Pharaon. On a un autre exemple, encore dans la Torah. En fait, on a plein des exemples dans la Torah. C'est vraiment, vous voyez, tous les Rechaim de la Torah, ils ont tous plus ou moins le même trait de caractère. Un autre, donc, Racha. Vous connaissez l'histoire avec le Chamor, une fable, comme les fables de La Fontaine, mais aussi les fables de Chazal, où il y a un jour, il y a le roi comme ça qui marchait avec toute sa pamalia, comment on dit pamalia en français? Toute sa cour. Et un jour, il passe devant, il y a un pont, et devant le pont, il y avait un Chamor, il y avait un âne. Et ils ont dit, oh, âne, laisse-nous passer. Il dit non, tu passes pas, tu dois payer une taxe. Et l'autre lui dit, mais t'as pas honte, c'est le roi, quand le roi des animaux, le lion, comment tu laisses passer tu laisses pas passer le roi des animaux, tu demandes une taxe. Il dit non, il passera pas s'il paye pas la taxe. Ils ont parti raconter ça au lion, au roi des animaux. Le lion, il s'est énervé, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a mis un coup de griffe, il a tué le chamor. Il a dit, c'est insolent, incroyable, il dit, et qu'est-ce qu'il a dit? Il demande au renard, il dit, va me préparer, prépare-moi bien le chamor, je vais le manger, j'ai faim là maintenant. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à couper le chamor, et en le coupant, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le cœur du chamor. Et le renard en avait envie, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a mangé. Et il a disposé comme ça tous les morceaux du chamor devant le roi, le lion. Il va commencer à manger, et il s'aperçoit qu'il n'y a pas de cœur. Il dit, renard, dis-moi, comment ça fait qu'il n'y a pas de cœur là dans le chamor, dans l'âne? Et le renard, il lui dit, mais mon bon roi, cet âne-là n'avait pas de cœur. Comment il n'avait pas de cœur? Il dit, oui, s'il avait un cœur, est-ce qu'il aurait été assez bête pour réclamer au roi de payer une taxe pour passer? Tu vois bien qu'il n'avait pas de cœur. Et le roi, il a dit, ah bon, ok, d'accord. Donc c'est un machal pour nous dire que celui qui a un cœur qui est mauvais, alors, sa sagesse, elle n'aide pas. Elle est mignonne, non? Bon, on ne casse pas. En tout cas, le deuxième exemple qu'on a, c'est qui? C'est Bilam. C'est qui Bilam? C'était le prophète des nations, d'accord? il était équivalent à Moshe Rabbeinu. Donc forcément, cet homme-là était un homme d'une grande sagesse, d'une grande intelligence. Hachem lui parlait, c'est un prophète. Et il avait une autre qualité, enfin c'est une qualité entre guillemets, c'est qu'il était capable de comprendre les signes. Les gens venaient voir Bilham et lui dit « Écoute, j'ai vu une pomme tomber de l'arbre, qu'est-ce que ça signifie ?» Il dit « Oh là, une pomme qui tombe de l'arbre, ça veut dire ça et ça et ça et ça. » « J'ai vu un truc tomber comme ça. » Il dit « À droite ou à gauche ?»« À droite. » »« Ah, à droite, ça veut dire que tu vas être riche. » Il venait, il racontait un truc, il était capable d'expliquer tous les signes. Et donc ça, c'est parmi les trounotes, les qualités de Bilham. Maintenant, une question qu'on pose, c'est que lorsque Hachem, il lui dit, lorsqu'il va arriver, les gens de Balak vont venir le motiver à venir maudire le peuple juif, qu'est-ce qu'il va faire, Bilham? Il va, ah, oui, non, machin, il a trouvé toutes les possibilités. À la fin, bon, Hachem, il dit, ok, vas-y. Et il va monter sur son âne, le matin, il va se lever tôt, d'accord, avec zèle, il va partir pour aller maudire l'âme Israël avec toute la ribambelle de ministres qui sont venus avec lui l'accompagner. Et qu'est-ce qui va se passer? À un moment, Hachem va envoyer un ange invisible qui va se placer devant l'âne. L'âne, il va voir ça, il va avoir peur, il va se mettre sur le côté. Il va tourner sur le côté. Et Bilham va s'énerver, il va lui mettre un coup. Bon, il va revenir. Après, qu'est-ce qui va se passer? Il va passer à côté d'un mur, et encore l'ange, il va venir. Et là, qu'est-ce qu'il va faire l'âne? Il va, hop, se poser sur le côté. Il va frotter le pied de Bilham contre un mur. Et là, Bilham, il va s'énerver, encore, il va lui mettre un coup. Et une troisième fois, là, l'ange va carrément se mettre devant dans une impasse, impossible de passer. Et là, l'âne, il va s'écrouler. Et comme vous connaissez toute l'histoire, l'ange va commencer à converser avec Bilham. La question qu'on pose, et c'est une question qui est énorme en réalité. Dis-toi, Bilham, tu étais capable d'interpréter, il y a une pomme qui tombe, il y a un truc qui tombe, chaque truc. Et là, t'es pas capable de voir ici qu'il y a un truc qui ne va pas. Ton âne, que toi-même tu témoignes, qui n'a jamais fait quelque chose de mal, qui ne s'est jamais mal comporté, oui, là, tu ne vois pas qu'il est en train de faire un truc bizarre, il est en train d'aller à droite, en train à gauche, tu ne te réveilles pas, tu ne dis pas, oh là, il y a peut-être un signe du ciel ici. Non, aussi intelligent et aussi capable d'interpréter les moindres gestes de tout le monde, si c'est quelque chose qui vient contre ma volonté, à savoir ma volonté d'aller maudire, d'aller détruire leur âme Israël, Chas v'Shalom, d'accord, alors je deviens complètement aveugle. Donc encore une fois, on voit cet exemple-là, où un homme qui est empli de sagesse incroyable, il a un cœur qui est mauvais, et ben, il devient complètement idiot, complètement nul, incapable de rien faire. On trouve encore d'autres personnages, je vous donne d'autres exemples encore. Il y a un autre personnage qui s'appelle, je ne sais pas qui est en premier, ce n'est pas important. Attends, Achitophel, Doeg, je ne me rappelle plus qui est en premier, ce n'est pas important. Un personnage qui s'appelait Achitophel. Vous savez qui est Achitophel? Dans la Bagma, dans Sanhedrin, elle nous dit il y a quatre personnes qui n'ont pas le droit au monde futur. Qui sont-ils? Bilham, on le connaît, on l'a vu, celui-là. Achitophel, Doeg Adomi et Gehazi. D'accord? Gehazi, c'était le bras droit du prophète Elisha. Lui, il a un autre problème, on l'a laissé de côté. Bilham, on l'a vu. Maintenant, c'est deux autres personnages, Doeg et Achitophel. Qui étaient ces deux personnages? Doeg, c'était le chef du Sanhédrin. Imaginez-vous le Sanhédrin, là-bas, 71 sages qui étaient assis, des grands chachamim du Ram Israël. Le chef de tous, c'était qui? Doeg Adomi. Sur lui, qu'est-ce qu'on dit? En lo chelek leolamaba. Achitophel, c'était le meilleur conseiller qui ait jamais existé. D'accord, il y a une histoire avec David Amel, un truc incroyable là-bas, où là-bas, Chazal nous dit qu'Achitophel, il était d'une sagesse telle que lorsque tu allais lui poser une question, ouais, il te donnait la réponse et il te disait, si tu ne me crois pas, va demander au Urim et Thummim, c'est Urim et Thummim, c'est le pectoral, où là-bas, c'est Hachem lui-même qui répondait, va voir ce que l'Urim et Thummim dit. Et quand tu posais au Urim et Thummim la question, il disait exactement la même chose qu'Achitophel. D'accord, ce qu'il te disait Achitophel, ça réussissait à tel point que c'était quoi? Comment il s'est perdu Achitophel? Il s'est suicidé. Pourquoi il s'est suicidé? Parce que lorsque le fils de David Ameler, Avshalom, va se lever, se révolter contre son père, Achitophel, qui détestait David, va se mettre avec lui. Et il va lui donner tous les conseils de la guerre. Et à un moment où donc David va être épuisé, il va être à partir en exil comme ça, il y a un personnage qui s'appelait, je suis désolé, je ne me rappelle plus comment il s'appelait, l'homme Michelet, qui était aussi un grand conseiller. Et là-bas, hein, il va voir, David va le voir, il dit, qu'est-ce que tu fais là, tu n'es pas parti avec mon fils? Il dit, ma pitom, parti avec ton fils. C'est toi le roi d'Israël, que je suis parti avec ton fils, Avshalom. Et je veux, moi, être avec toi, avec ta cause. Qu'est-ce qu'il lui dit, David Ameler? Écoute, si tu veux m'aider, reste pas avec moi. Tu vois ce que tu vas faire? Tu vas aller chez mon fils et tu vas essayer de déjouer, écoutez bien, les plans de Achitophel. C'est-à-dire que David Améler n'avait peur de rien. La seule chose qu'il avait peur, c'est les conseils d'Achitophel. Si Achitophel donnait un conseil, c'était foutu pour lui. Et donc lui, enfin je me rappelle comment il s'appelle, je suis désolé, il va retourner donc chez Avshalom, et Avshalom va le revoir et dire « Incroyable, quoi, que t'es pas avec mon père, toi ?» Il dit « Bah, Pitom, ton père, c'est le passé, toi, t'es l'avenir, t'es les jeunes, vas-y, moi, je suis pour toi, je suis avec toi. » Il dit « Ah, vraiment, tu m'honores, incroyable, t'es avec moi, un extraordinaire. » Et donc, cet homme-là va se mettre conseiller de Avshalom. Après quelques batailles, Avshalom va dire « Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Il appelle Achitophel, il dit « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Et Achitophel lui dit « Écoute, ce qu'on va faire, on va maintenant prendre une bande de soldats et on va tout de suite aller poursuivre David. Là, il est fatigué. Et là, maintenant, ça, tu vas l'achever. » Il dit « Ah ouais, c'est un bon conseil que tu me donnes. » Bon, lisez là-bas dans le Tanakh, vous verrez plus dans détail tous les détails. Et il se tourne vers l'autre conseiller. Il dit « Toi, qu'est-ce que tu penses ?» Il lui dit « Écoute, le conseil d'Achitophel, bon, il a l'air bien. C'est vrai qu'Achitophel, c'est un grand conseiller. Mais ici, il n'est pas bon son conseiller. Pourquoi ? Parce que son conseil est valable pour un petit guerrier, pour quelqu'un qui se bat normalement, pas pour David Améler et tous ces kiborim, ces soldats. Les soldats David Améler, c'était très réputé d'être des grands vaillants comme ça. Et il dit donc, là, non, tu vas te planter là. Au contraire, c'est pas ça qu'il faut faire. Et là-bas, il va lui donner un autre conseil, entre autres de partir à la guerre. Je ne vois plus très bien de conseil. Et que lui, Avshalom, va faire partie donc, de la troupe pour aller attaquer David Améler. Et ils vont faire ça. Et là-bas, il y a marqué le verset, il nous dit que Hachem, il a trompé tous les gens de dire que ce conseil-là est mieux que celui d'Achitophel, parce qu'en réalité, celui d'Achitophel était beaucoup mieux. Et qu'est-ce qui va se passer? De ça, Avshalom va se faire taper, il va mourir. Et donc, comme ça, David va être sauvé. Maintenant, Achitophel, écoutez bien, il va voir que son conseil n'a pas été donné, n'a pas été reçu, dire c'est sûr que c'est foutu. Lui, t'es tellement intelligent, il savait que t'as pas fait comme j'ai dit, c'est foutu, je vais mourir. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti suicider. Parce qu'il va mourir, après il va se suicider. En tout cas, cet homme-là, en lo chelek le olam haba. Maintenant, nous, on est à la yeshiva, on étudie la Torah, on a plein de yetserara. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On dit, ah, t'as du yetserara, il n'y a pas de problème. Il y a marqué que j'ai créé un yetserara, et j'ai créé quoi? Torah tavlin. J'ai créé un remède pour le yetserara, c'est quoi? C'est la Torah. Étudie la Torah, et tu vas réussir à annihiler ton yetserara. Il posait une question, Slicha, Achitophel. Et Doeg, c'était aussi un autre conseiller qui haïssait David. C'est lui qui a tué la ville de Nob, les Kohanim, toute une histoire aussi avec Doeg. Et il dit, on voit, ces deux personnages qui étaient des sages en Torah incroyables. Et pourtant, sur eux, qu'est-ce qu'on dit? En lo chelek lo olam haba. Je comprends pas. D'un côté, tu me dis, étudie la Torah, c'est ça, le tavlin. Comment on dit le tavlin? Le remède contre le Yetzirah. D'un autre côté, on voit que des grands personnages comme ça sont arrivés à un niveau qu'on dit sur eux qu'ils n'ont pas le droit au monde futur. Excuse-moi, la Torah, ça ne marche pas dans tous les cas. Oui ou non? Grosse question. Et là, le problème, il est encore comme on a dit. Tu peux avoir une sagesse extraordinaire, mais tant que tu as dans ton cœur des mauvaises choses, ton cœur, il est mauvais, oui, alors tu n'as aucune chance. Et on voit que Doeg Adomi, c'était un homme qui avait une haine, il était haineux. De quoi il était haineux? Il a hissé David Améler. Il y a toute une histoire. Là, on a sorti une bande dessinée sur David Benishai, vous l'avez vu, avec Doeg Adomi, très intéressant. En tout cas, c'est un homme qui était plein de haine dans son cœur. Il avait une jalousie terrible. Et cette jalousie, elle a fait qu'il s'est perdu. Donc, tu as beau avoir de la Torah, tu as beau être un grand Talmid Chacham, si ton cœur, il est sale, si ton cœur, il est pourri, on va dire, tu n'as aucune chance. Achitophel aussi, toi, tu avais de la haine contre David Améler. D'accord? Tu étais un homme qui avait des mauvaises midotes. Et c'est cette haine-là qui a fait que toute ta Torah ne t'a pas protégé. Il y a un autre personnage qui s'appelle Yeravam ben Navat. Vous savez qui c'est? Yeravam ben Navat? C'était aussi un des grands sages d'Israël, grand Talmid Chacham. D'accord? C'est lui qui a fait le chiisme à l'époque de Shlomo Ameler. Shlomo Ameler va avoir un fils qui s'appelle Rechavam. Oui? Et à son époque, il y a ce Yeravam ben Navat qui va se lever et qui va faire une petite révolution et le royaume va diviser en deux, le royaume de Yehuda, le royaume d'Israël. Qui va diriger le royaume d'Israël? C'est Yeravam ben Navat. Et c'est un des rois sur lesquels on dit qu'il n'a pas le droit au monde futur. Et on voit lui aussi combien c'était un chacham et combien c'était un homme. Il a réussi à convaincre les gens qu'ils devaient se prosterner devant une idole. D'accord? Il avait mis 12 veaux d'or et tous les bnei Israël se prosternaient devant le veau d'or. Ça a été tellement, il était capable de les convaincre de ça. Et on voit encore une fois, celui bien qui était plein de sagesse, sur lui on dit « Elo chelek leolam haba ». D'accord ? Et c'était une âme qui était très très chère à Hachem. Pourquoi ? Parce que Hachem, il lui a dit « Fais tchouva ». Et toi et David Ben Ishai, David, donc David Ameler, et moi, Hachem, nous marcherons ensemble dans le Gan Eden. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit qui d'abord ? Moi ou David ? Hachem l'a dit non, David d'abord. Il a dit non, je ne veux pas alors. C'est-à-dire que sa haine, ses mauvais traits de caractère, elles l'ont tellement pourri qu'à la fin, non seulement il a perdu le mérite de se balader avec Hachem dans le Gan Eden, mais pire que ça, il est parti au fin fond du Gehinom, En lo chelek leolam haba. Donc encore une fois, on voit un exemple où cette Torah, elle ne protège pas. Et c'est quoi le problème ? C'est à cause, comme on a vu, à cause du cœur. D'accord ? Ce cœur-là. Maintenant, ok, on a dit les problèmes. Maintenant, il faut trouver les solutions. Les solutions, en réalité, elles sont personnelles. Chacun, il doit faire un travail personnel. Et le travail qu'on doit faire, ça doit être un travail du cœur. Le cœur, c'est quoi ? C'est un jardin secret. Il y a un jardin secret qui est que à vous. Il n'y a que vous qui savez ce qu'il y a dans votre cœur. Maintenant, le problème, c'est que ce cœur-là, il a été, malgré nous, il a été pollué. Pollué à cause de quoi ? À cause de toutes les choses qu'on a vues, mais avec aussi à cause de tous les épisodes de notre vie qu'on a vécu. On a vécu plein de choses. Et tous ces épisodes-là, et mis à part ça, il y a une autre chose aussi, on est né avec un certain potentiel. On est né avec des bons traits de caractère, des mauvais traits de caractère. Donc on est né avec quelque chose dans le cœur aussi. Et donc le but, justement, c'est de purifier ce cœur-là. Maintenant, dans notre cœur, au fur et à mesure, qu'est-ce qu'on a vu ? Alors qu'on était petit, alors on a eu un peu de jalousie, et cette jalousie, on l'a laissée traîner dans notre cœur, elle a grandi. On a eu un petit peu de haine, on a eu un petit peu d'orgueil, etc., etc. Et donc, on voit que notre cœur, il va, au fur et à mesure, se polluer. Le fait que le cœur est pollué, ça va complètement, comme on l'expliquait maintenant, influencer sur notre sagesse, sur notre ratson, sur notre volonté. J'ouvre une petite parenthèse, j'ai marqué que lorsque Mashiach reviendra, alors les jeunes ne fauteront plus. Il n'y aura plus d'Yetzerara. Comment c'est possible qu'il n'y ait plus d'Yetzerara ? Comment ça va marcher ? C'est-à-dire qu'il y a marqué Olam ki minagonoeg, le monde il va marcher tel qu'il est aujourd'hui. Alors ça veut dire quoi qu'on ne va plus fauter ? Le Rav Freelander dit un truc incroyable. Il dit qu'il y a marqué que lorsque Mashiach reviendra, qu'est-ce qu'il va faire Mashiach ? Il va nous couper la orla de notre cœur. C'est quoi la orla de notre cœur ? La. Comment on dit en français la orla ? Le prépuce. Le prépuce de notre cœur. D'accord ? On va nous faire la circoncision du cœur. C'est quoi cette or-là ? Alors, il explique comme ça. Il dit la même chose. L'homme, il a un sérel, il a une sagesse et il a un cœur. D'accord ? Le problème, c'est qui le dirige ? C'est son cœur, son ratson, sa volonté. C'est la volonté qui dirige l'homme. Maintenant, le problème, c'est que des fois, notre volonté, elle n'est pas terrible. On a des mauvaises volontés. On a des volontés de choses qui ne sont pas très cachères. Et donc, la volonté, elle va influencer le sérel à aller chercher ce que je veux. Allez, maintenant, j'ai envie d'un gros, gros burger avec des frites. Allez, vas-y, débrouille-toi, trouve-moi-en un. Alors, le sérel, il va commencer à réfléchir où je vais trouver un bon hamburger. Ça, c'est pour être gentil, d'accord ? Mais il y a des avérotes qui sont pires que ça. Et donc, le sérel ne réfléchit plus de façon sensée. Il est complètement influencé par notre volonté. Maintenant, qu'est-ce qui fait le lien entre notre cœur et notre sérel ? C'est la orla, c'est ce petit prépuce. Et donc, qu'est-ce qui va se passer lorsque Mashiach viendra ? On va nous couper ce prépuce-là. Et qu'est-ce qui va se passer donc ? C'est plus notre volonté qui va décider les choses, c'est notre sérel qui va décider les choses. Combien de gens fument ? Beaucoup de gens fument. C'est dangereux la cigarette, tu peux mourir. On a vu là sur les paquets, ils nous mettent le cancer, on voit des photos horribles. Et pourtant, j'aurais continué à fumer. Pourquoi ? Parce que la volonté, elle est plus forte que le sérel. Demain, on va nous couper donc ce petit prépuce. Et lorsqu'on va voir la photo, on dit « Ah oui, pas bien de fumer. » On va prendre le paquet et on va le jeter. Même si on a très envie, on sait que ce n'est pas bon pour nous, on ne le fera pas, etc. Et donc, c'est ça ce qui va arriver à la fin de temps, Bezrat Hashem. En tout cas, Bekarov, Mamash. Maintenant, donc ce jardin secret, il y a deux choses à faire. Il y a d'abord le nettoyer. Comment on fait pour nettoyer son jardin secret ? Ah, il faut le travailler. Ça, c'est un travail. D'accord ? On a tendance à croire que lorsqu'on on écoute les drachot de Rabbanim qui nous parlent de l'orgueil, qui nous parlent de tous ces traits de caractère, et on s'imagine que c'est loin de nous ça. Nous, notre Yetzera, ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas tout ça, c'est beaucoup plus cru que ça. Et en réalité, non. Toutes les fautes qu'on fait, d'accord, elles proviennent des mauvais traits de caractère. Et la plupart des mauvaises choses qu'elles viennent, qu'on fait, c'est à cause de 3-4 choses. L'orgueil, d'accord ? L'orgueil, c'est lui qui va entraîner la haine, c'est lui qui va entraîner aussi la jalousie. Et on va dire deuxième chose, c'est la fainéantise. C'est ces deux choses-là réellement qui ont une influence sur nos mauvais traits de caractère. Alors comment est-ce qu'on fait pour travailler cet orgueil-là ? L'orgueil, donc il y a beaucoup de livres qui sont écrits sur l'orgueil. Déjà de comprendre qu'est-ce que c'est l'orgueil, qu'est-ce qui provoque l'orgueil. Maintenant, mon agenda secret, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais me prendre de côté et je vais commencer à réfléchir sur cet orgueil-là. Comment c'est cet orgueil ? Comment elle s'exprime chez moi, cet orgueil-là ? Où je vois que je suis orgueilleux ? Est-ce que vous avez déjà réfléchi sur ça ? Est-ce que vous savez que vous êtes orgueilleux ? Vous êtes orgueilleux ? On est tous un petit peu orgueilleux, d'accord ? Toujours un petit quelque chose. Alors, essayons de réfléchir comment cet orgueil-là, il s'exprime chez moi. Alors, comment ça peut être de plusieurs façons ? Déjà, j'aime pas qu'on me parle mal. J'aime pas, ou bien j'aime bien parler mal des autres. Pourquoi ? Pourquoi c'est lié à l'orgueil ? Parce que j'aime m'élever au-dessus des autres. Pourquoi t'aimes t'élever au-dessus des autres ? T'es mieux que les autres ? Je dis non, c'est pas que j'aime mieux que les autres, mais j'aime bien m'élever au-dessus des autres. Pourquoi ? C'est justement, c'est lié à l'orgueil. Alors, on va se prendre de côté, on va réfléchir sur cet orgueil-là et on va essayer d'y travailler. D'accord ? Comme je sais que d'habitude, je parle mal à un tel parce que je suis orgueilleux, j'aime bien l'écraser ou j'aime bien mal. Je parle avec celui-là. Alors, au contraire, on va essayer de bien parler à cette personne-là. On va bien essayer de l'arranger. On voit aussi la haine. La haine, c'est quoi ? C'est la jalousie, la haine, toutes ces choses-là. D'accord ? Il faut prendre son cœur de côté et réfléchir. Pourquoi est-ce que je suis jaloux ? Si lui, il a telle ou telle chose, c'est que quand je m'en roule, il a décidé qu'il ait telle ou telle chose. Lui, il n'a pas le même travail que moi, j'ai. C'est vrai que lui, il a telle ou telle chose, mais moi aussi, j'ai des choses qui sont bien. Pourquoi l'envier. D'accord, vous connaissez l'histoire avec le Rav Shlomo Shvedron. Un jour, il y a un homme, il est parti le voir, il était malade, il a dit, oh là, le Rav, qu'est-ce qui t'arrive ? Il dit, oh là, mon voisin, il a acheté une nouvelle Mercedes, oh, encore plus grande que la mienne. Il avait de la jalousie comme ça dans son cœur. Et le Rav, il dit, il n'y a pas de problème, tu la veux ? Il n'y a pas de problème. Il dit, quoi, vraiment, je peux l'avoir ? Il dit, oui, tu la prends, mais tu prends avec lui son ulcère. Ça vient avec ça. Et donc, il n'y a aucune raison d'être jaloux. D'accord, si lui, il a telle chose, ça va lui coûter tel et tel truc. Pourquoi moi je suis jaloux de ce que j'ai ? Ce que j'ai, c'est très bien ce que Akash Bokhri m'a donné. C'est des mots que je vous dis. Mais c'est un vrai travail. Se prendre de côté, essayer de laver ce cœur-là. Notre cœur, il est plein de mauvaises midotes. D'accord, il y a la fainéantise. La fainéantise, c'est quelque chose de terrible. C'est quoi la fainéantise ? C'est pas vouloir donner de son temps, parfois. D'accord, et apprendre à donner son temps. De ne pas dédier tout son temps à l'inutilité. C'est ça la fainéantise. D'accord ? Pas trop se casser la tête. Essayez de un petit peu laver ce cœur-là. Et lorsque Bezrat Hashem, et ça c'est, on ne peut pas le dire en quelques mots, mais c'est tout un travail, et c'est le travail de la vie. C'est s'arrêter et d'essayer d'introspecter son cœur. Il y a quoi dans mon cœur ? Pourquoi je me comporte comme ça le soir, dans la journée ? S'arrêter le soir, réfléchir, pourquoi je me comporte comme ça ? Pourquoi je me suis mal comporté ? Pourquoi je vais mal parler à celui-là ? Qu'est-ce qui m'a motivé ? Chaque jour, on nettoie un petit peu, à la fin, notre cœur, il devient pur. Et lorsque notre cœur devient pur, alors la sagesse de la Torah, elle peut avoir enfin une vraie influence sur nous. D'accord ? Parce qu'on peut étudier la Torah du matin au soir. Si ton cœur, il est mauvais, ça ne va rien changer. Je voudrais juste finir avec un truc. On a eu plein d'élèves à la yeshiva. D'accord ? Ça, je le dis aussi à la caméra. On a eu plein d'élèves à la yeshiva. Il y a des élèves qui se sont mal comportés, qui ont fait des choses... D'accord, qui sont mal comportés. Et une fois, il y a eu un divorce. Deux personnes qui sont mariées, il y a eu un divorce. Et il s'est très mal comporté, le garçon. Et il y a le père de la Kala. Un jour, je lui ai parlé. Il m'a engueulé. Il dit, mais pourquoi vous voulez... Je ne comprends pas, il est resté toute l'année à l'Eshiva. Pourquoi vous ne voulez pas éduquer ? Pourquoi vous ne voulez pas éduquer ? Vous n'avez pas rien fait pour le changer. Comme ça, il se comporte. Moi, je lui ai répondu, ce monsieur, ce garçon-là, il ne nous a pas laissé l'éduquer. Ça veut dire que cet homme-là, il est venu, il a essayé, il a appris beaucoup de choses, mais son cœur, il est resté fermé. Son cœur, il est resté sale. Il n'a pas voulu arranger son cœur. Et il n'a pas compris c'était quoi le but de la Torah. Donc un homme qui ferme son cœur, qui n'ouvre pas, qui ne laisse pas un peu rentrer un peu d'eau de Javel dans son cœur, on ne peut pas l'arranger. Donc nous, on peut enseigner la Torah à des gens, on peut leur dire 1000 choses, mais si vous, de votre côté, vous avez le cœur qui est fermé, d'accord, et qui ne voulait pas justement vous vous apprêtez à laver ce cœur-là, on ne peut rien faire pour vous. Encore un petit mot par rapport à ce cœur-là qu'on doit nettoyer. Donc on a dit, ça c'est enlever les mauvaises choses qu'il y a du cœur. Maintenant, on doit aussi le gonfler, ce cœur-là. D'accord ? Notre cœur, des fois, il est tout petit, on doit le gonfler. Et là, j'ai mis quelques notes que j'ai oublié de rapporter. Comment on fait pour développer son jardin secret ? Alors le cœur, qui dit cœur, dit amour. D'accord ? Il faut développer cet amour-là. L'amour de la Shrina, la peine de la Shrina. D'accord ? La Shrina, elle souffre. La présence divine, elle souffre. Il y a beaucoup de malheurs dans le monde. Beaucoup de gens qui quittent la Torah. Il y a beaucoup de souffrances dans le monde. Être, d'accompagner la Shrina, la présence divine, dans cette douleur-là. D'accompagner son ami dans la douleur. Vous savez qu'il y a des gens qui souffrent. Et des fois, on n'en a rien à faire. On ne fait pas très attention. Essayez justement de mettre du cœur, de mettre du cœur dans nos actes. De mettre du cœur. Quand on voit nos amis souffrir, se coller à lui. D'accord ? De son ami. Il faut essayer aussi d'essayer d'aimer sincèrement. Vous savez qu'il y a des gens qui n'aiment que par intérêt. Je me colle à quelqu'un parce qu'il est intelligent, parce qu'il est beau, parce qu'il a de l'argent, parce qu'il est charismatique, parce que tout ça. Mais l'autre, il est petit, bête, moche, pauvre, pas intelligent, que je me colle à lui. Au contraire, colle-toi à ces gens-là. Essaye d'aimer les gens sincèrement, de développer un amour sincère. Comment on fait ça? Tout ça, c'est des exercices. Essayez d'appeler les gens, de soucier des gens. D'accord? Même des gens que tu as... Il n'a rien à voir avec moi, ce mec-là. C'est un plouc. D'accord? Et c'est ainsi, donc, d'un côté, se nettoyer le cœur, de l'autre côté, gonfler son cœur. Shachem et Bezrenou, que ces paroles soient la mémoire de ma maman. Gomara Mimi Bat Mecha. Chazak ou Baruch.